Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. Parents, c'est le plus beau métier du monde, alors pourquoi ne pas le raconter? À chaque épisode, je reçois un invité qui raconte sa parentalité. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter Collé.
Bonjour Aminata.
Comment tu vas?
Ça va très bien, merci de nous recevoir.
Merci à toi d'être venue. En plus, tu viens un peu de loin. Tu viens d'où, dis-nous?
Alors, du Loiret, dans le 45, Orléans.
Eh bien, franchement, merci à toi. Je te propose de te présenter.
Alors, moi, je suis Collé Sow, donc du Loiret, 45 000 Orléans. Je suis mère de 3 enfants, de 19, 16 et 12 ans, donc bientôt 13 ans. Donc, je suis très engagée dans le social et j'ai eu plusieurs vies avant celle-là.
Ah, tu vas nous raconter tout ça. Dis-moi, est-ce que tu veux bien nous dire qui était Collé la petite fille? Comment toi, tu pouvais être enfant, jeune? Dans quel schéma familial tu as grandi? Est-ce que tu as grandi avec tes deux parents? Est-ce que tu es née en France ou pas?
Alors, moi, je ne suis pas née en France. Je suis née au Sénégal, à Thiès.
D'accord.
Donc, j'ai vécu avec mes deux parents. Donc, dans une famille où il y avait beaucoup de générations, beaucoup de liens familiaux, donc cousins, cousines, tantes, donc une grande famille.
Une grande famille, t'as combien de frères et sœurs?
Alors, père polygame, donc ouais. Je suis l'enfant unique de ma mère.
D'accord.
Mais nous sommes 12.
Ok, et tu es l'aînée?
Alors non, je ne suis pas l'aînée. J'ai souvent joué ce rôle d'aînée, mais je ne l'ai pas été, donc je suis un peu... Parmi les enfants du milieu.
Parmi les enfants du milieu. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment tu étais petite dans le lien? Donc, tu nous as dit que c'était une famille intergénérationnelle où le lien familial était fort. Mais du coup, comment ça se traduisait? Est-ce que c'était dans l'échange, dans la transmission? En plus, quand il y a plusieurs générations comme ça, souvent, les anciens se racontent, ils ne se racontent pas. Tu nous dis un petit peu?
Après, notre famille a ses particularités. Donc, moi, je pourrais peut-être la raconter sur plusieurs étapes.
Ouais,
donc, il y a eu l'étape où il y avait la grand-mère paternelle, donc, avec un fort tempérament, qui avait beaucoup de... En tout cas, qui tenait sa famille et qui, à mon avis, était garante quelque part d'une certaine stabilité.
D'accord.
Donc, pour le dire honnêtement, hein, j'ai un papa qui n'était pas forcément très instable émotionnellement.
OK.
Et donc, voilà, on est né dans cette configuration-là où il y a eu plusieurs femmes avant la mienne. Et quand elle est arrivée, elle a pris en charge tous les enfants.
D'accord.
Donc, elle était très maternelle, mais malheureusement, je n'étais pas un enfant qu'on maternait facilement.
Ok, qu'est-ce que tu entends par là?
Alors, très vite très éveillée, très vite qui interrogeait quand même le système familial, qui avait un regard un peu distancé quand même par rapport à l'âge qu'elle pouvait avoir, qui comprenait finalement le système patriarcat et qui voyait quelque part qu'il y avait un déséquilibre et qui s'est très vite posé des questions sur sa condition de future femme, de jeune fille. Et qui très vite avait une impétence pour l'émancipation.
Ça veut dire que toi, depuis ton plus jeune âge, tu remets en question un peu le modèle familial dans lequel tu grandis, tu as envie de t'émanciper, de grandir, et tu te questionnes déjà sur quel genre de femme tu vas être, c'est ça?
Alors, certainement, parce qu'après, tout ça, c'est dit avec le recul.
Ouais,
hein,
bien sûr.
Après coup, qu'on se rend compte quand même qu'on avait une différence, qu'on avait un tempérament peut-être qui encourageait cela. Mmh. Je trouvais que la condition de la femme n'était pas assez terrible de par des injustices que je pouvais voir, en tout cas à travers les femmes de mon environnement, que ce soit même au-delà de ma mère.
Mmh.
Et dans un premier temps, j'avais pensé certainement, c'est parce qu'elle n'était pas émancipée financièrement qu'elle était soumise, mais avec le recul, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà, que ne pas être émancipée financièrement forcément n'était pas non plus un terreau qui pouvait en tout cas permettre certains abus, que c'était toute une structure de la société qui, à mon avis, ne donnait pas pleinement de la place à la femme et il y avait de la violence symbolique que je percevais. Et ces contradictions-là, très tôt, m'ont marqué.
Ça t'a marqué.
Voilà.
Du coup, comment Collé évolue jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près? Est-ce que tu es scolarisée? Comment ça se passe la vie à la maison à ce moment-là? Quel modèle éducatif tu retiens de cette époque?
Alors, je dirais, j'ai compris très vite que l'école était la voie la plus simple pour s'émanciper.
Okay.
Ce n'était pas le mariage, c'était sûr. Après, très vite aussi, j'ai été entreprenante. Hein. À 8 ans déjà, je commençais à voir comment chercher de l'argent. J'étais très, peut-être avant-gardiste par rapport, en tout cas, au reste de la fratrie. J'éprouvais aussi le besoin de protéger les autres parce que ce n'était pas évident à la maison. Mmh. Il y avait quand même de la violence verbale et psychologique, physique. Et j'étais celle qui se démarquait par sa capacité de résistance à parfois mettre la désobéissance en marche et puis finalement tenir d'une manière ou d'une autre. Et j'interrogeais la société et j'étais par contre jusqu'à 7-8 ans très enjouée, très, très vive d'esprit, très, très agitée. Et à partir de l'adolescence, c'est là où je me suis beaucoup renfermée sur moi-même.
Ok. Tu parles de mettre en marche la désobéissance, j'adore, parce que quand il y a des fratries, nous, en tant que parents, on essaye d'éduquer, de fixer des règles, etc., en espérant en tout cas que tout le monde va écouter. Et toi, tu dis, j'ai mis en place la désobéissance. Tu peux nous donner, est-ce que tu as un souvenir d'une initiative de désobéissance que tu as pu initier avec tes frères et sœurs?
Alors, je n'ai fait que ça parce qu'en fait, je percevais de l'injustice. Et très vite, je ne supporte pas l'injustice aujourd'hui encore. Je pense que c'est la seule chose qui peut vraiment me mettre en péril. Je ne le supporte pas. Et je voyais dans la manière dont la société s'organisait, il y avait une forme de silence coupable que moi, je trouvais coupable parce que je me dis... Quand il y a de l'injustice, normalement, tout le monde doit être en mesure de le combattre. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de contradictions entre la posture qu'on pouvait avoir quand il n'y a personne et la posture qu'on avait à la maison et les abus, finalement, qui ne se justifiaient pas. Et on faisait passer tout sur l'éducation. Ton père peut te taper parce qu'il t'aime bien, il a envie que tu réussisses. Et puis, j'avais trop l'impression que les femmes étaient trop à leur place. Pas à leur place qu'elles souhaitaient être, mais à la place qu'on leur désirait.
Ouais.
Et donc, très vite, je pense que toute ma vie, je n'ai fait que des désobéissances. Hein, donc, et quand il fallait, par exemple, quand on nous interdisait de faire quelque chose, moi, je transgressais tout le temps. En essayant, je ne le percevais pas sur le moment. Par exemple, il y a des choses qui ne m'intéressaient pas, je ne le faisais pas sortir, par exemple, aller en boîte, des choses comme ça, ce n'était pas mon truc. Par exemple, mon père n'aimait pas qu'on lise n'importe quoi. Moi, je lisais n'importe quoi.
Ouais, okay.
Il voulait qu'on prie. Moi, je ne comprenais pas...
Le
sens de la prière, parce que je me dis, de la perception que j'en avais, il y avait trop d'incompréhension, en tout cas de contradiction. Donc, j'étais celle qui priait le moins. Et quand tout le monde priait, j'étais derrière, je les regardais faire. Et j'avais l'impression que c'était un peu comique. Mais bon, ça, après, c'est avec le regard...
Ouais, c'est extérieur maintenant.
C'est extérieur. Et après, sur le coup, je me dis, il y a des fois où aussi j'en avais marre. J'avais envie d'être comme tout le monde. J'avais envie de ne pas regarder, de ne pas voir, mais je voyais quand même. Voilà.
Ok, ça marche. On arrive vers l'adolescence. Est-ce qu'il y a des temps qui ont marqué ton enfance, ton adolescence, que tu aimerais partager avec les auditeurs? Est-ce qu'il y a des moments clés? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de peut-être comment ta mère a pris en charge ton éducation dans cette adolescence face à une fille qui est un peu dans la rébellion et qui accepte pas toutes ces injonctions? Comment elle fait, elle, pour essayer de t'éduquer au mieux? J'imagine peut-être essayer de te faire rentrer un peu dans le rang, ou est-ce qu'elle te suit, elle est d'accord avec toi et elle t'admire?
Après, comme je disais tout à l'heure, j'étais pas une fille facile à materner. Et comme ma mère, de façon, je pense que c'est comme une frustration pour une femme qui voulait beaucoup d'enfants et qui finalement n'en a qu'une et qui finalement donnait beaucoup d'amour autour d'elle. Donc, étant d'une grande fratrie, et il y en avait de tous les âges, donc il était plus facile pour elle de prendre les autres enfants sur leur aile. Elles étaient beaucoup plus dociles. Après moi, en tout cas, mon adolescence, ma désobéissance était plutôt pacifique. J'étais dans la lecture, dans la création d'un monde nouveau dans ma tête, avec une projection qui m'était personnelle, en tout cas qui ne ressemblait en rien à ce que je voyais autour de moi. Et je me disais, écoutez, quoi qu'il arrive, une chose est sûre, si demain, je devais être une femme, même si je n'en avais pas absolument pas une grande projection, parce que c'était une période où j'étais très dépressive, il faut le dire, où je ne comprenais pas ce que je foutais là. Quel sens tout cela pouvait être? J'étais là sans être là. J'étais là sans être là, voilà.
En plus, tu dis, en fait, dans l'enfance, tu es plutôt un enfant jovial, un enfant agité, etc. Est-ce que tu arrives maintenant, avec le recul, à expliquer qu'est-ce qui te fait basculer dans cette introversion, cette dépression que tu nommes dans l'adolescence?
Alors, moi, il y avait une chose, par exemple, avoir du mal à trouver sa place. C'est-à-dire que ma mère avait besoin de materner, il y avait les frères et sœurs, donc elle arrivait à s'occuper. J'étais pas d'accord du tout par le modèle parental, en tout cas paternel, que je trouvais abusif. Et ben, j'étais dans le monde des livres, donc forcément plus dans un monde décalé, parce que qui ne correspondait pas forcément
À
à
ce
ce
que
qui
tu
se
voyais.
faisait, même si mon père, mes parents, mon père était intellectuel, ma mère a fait l'école, même si elle ne travaillait pas et s'occupait de nous. Moi, personnellement, en fait, c'était un moment où je remettais beaucoup de choses en question. Et c'est un moment aussi où j'ai eu le sentiment que je devais protéger tout le monde. Et protéger tout le monde, c'était prendre des responsabilités. Quand on les prend à cet âge-là, on se parentifie quelque part sans le savoir. Et pour un enfant, c'est très lourd à porter.
Et ça t'a enfermé dans quelque chose de toi, tu le qualifies d'une certaine dépression parce que tu vis pas l'adolescence que tu aimerais vivre ou parce que t'es attristé. Et puis après, tu as dit, tu le dis avec beaucoup de pudeur, mais tu étais quand même une enfant qui subit les coups, en fait, hein. Les coups, la violence. Enfin, parce que tu parles beaucoup de protéger les autres.
Après, j'avais le caractère en fait qui faisait que je ne me laissais pas forcément dominer. Je voyais qu'il y avait de la violence, mais je mettais en place, parce que je n'aime pas subir. Donc, je mettais en place des stratégies qui me permettaient de m'imposer aux autres d'une manière ou d'une autre. Quand les autres ne gueulaient pas, moi, je gueulais, je boudais, je faisais tout,
Je te faisais entendre.
même si on me tapait, ben, je ne donnais pas le plaisir de montrer ma faiblesse. Donc, ça aussi, c'est une carapace. Et pendant ce temps-là, j'avais une impétence pour beaucoup de choses et je ne comprenais pas ce que je foutais à l'école. En même temps, j'étais là, je me dis. Ça peut être une voie de sortie, mais en même temps, c'est une voie de sortie. Mais la réalité du quotidien ne te permet pas finalement de t'y focaliser. Et tout ça, en fait, c'est une réalité. Quand tu viens chez toi et que finalement, dans les familles où il y a quand même de la violence, il faut se dire que c'est une violence qui se vit à tous les étages, en fait, si tu veux. Parce que chacun va essayer de faire de l'autre son souffre-douleur, ce qui fait que. Moi, j'étais stratège, j'étais amie avec tout le monde, j'étais toute petite, je ne cherchais pas de place. Donc, ça me protégeait d'une part, mais ça t'isole en même
Mais
temps.
ça t'isole en même temps.
Ça t'isole en même temps.
Merci de partager ça avec nous.
Mais avec plaisir.
Tu vas partir pour quitter, enfin, tu vas quitter le Sénégal vers quel âge?
Alors, moi, je suis arrivée en France en 2005. C'est tout récent, donc ça fait à peu près 19 ans. Mais avant ça, il y a tout un parcours de vie. Il y a eu un moment où il fallait prendre ses responsabilités. Et je pense que j'ai dû les prendre. J'ai dû quitter la maison des parents.
Alors,
Donc.
tu nous racontes comment ton petit parcours de vie jusqu'à ce que tu t'émancipes, en tout cas, de la petite fille ou de l'enfant, si on peut dire, dans le foyer. Et comment tu vas voler tes propres ailes? Est-ce que tu nous expliques un peu ce petit parcours de vie?
Après, il faut se dire qu'en fait, on ne s'émancipe pas réellement tant qu'on ne se projette pas en tant qu'individu autrement. Ça se fait après coup. Ce que je savais, c'est que j'avais des facilités. Je n'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour y arriver à l'école. C'était tumultueux, c'était bizarre. Il n'y avait pas d'investissement forcément personnel. Mais je me suis dit que j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Avoir beaucoup de chance, c'est. On peut avoir une intelligence, avoir. Peut-être parfois, voilà, une famille qui soit protégeante et ne pas avoir peut-être parfois cette petite chance qui fait que les choses réussissent plus facilement que pour d'autres. Donc, très vite, je savais ce que je voulais faire de ma vie. C'est bizarre, hein? J'avais toujours cette voix intérieure qui me disait, ben, tu allais être journaliste.
Donc au
Et je,
début, ton
voilà, je me
rêve,
suis
c'était
dit,
ça.
je vais être journaliste et j'ai très vite transformé les bâtons en micro et j'interviewais tout le monde à la maison, les sœurs, donc je les projetais dans mon monde. Et quand j'ai eu le brevet, mon père qui était enseignant nous dit ouais, tu vas aller faire l'enseignement. Et c'est ma vraie première rébellion où je me suis dit que ça apportait quelque chose. Parce que je lui ai dit non, je ne ferai pas ça, je vais être journaliste. Et il me dit si tu fais ça, tu n'y arriveras pas. Je lui dis si tu as réussi, je réussirai.
Ouais, donc
Sur
déterminé.
ce coup-là, sur le coup, quand je le disais, c'est juste que je me voyais dans un village en train d'enseigner des choses à des enfants que je n'avais pas forcément envie.
T'avais quel âge là?
J'avais le brevet, j'avais entre 14 ans, donc c'était
Ouais.
surtout la peur. Mais moi, il y avait une voix intérieure qui me disait, tu allais être journaliste. Et pour moi, c'était clair et net. Si je devais en tout cas faire quelque chose de l'école, ce serait ça. Et ben, par chance, j'ai pu faire ces études-là et qui très vite m'ont permis de voyager, de voir autre chose,
Donc,
de
tu passes
réussir.
des études de journalisme.
Je fais des études de journalisme.
Tu voyages, tu vas où?
D'abord, je viens en France, après au Mali, Après, j'ai fait la Gambie, plusieurs pays de la sous-région, j'ai fait les États-Unis et autres. En tout cas, j'ai animé des émissions qui ont pas mal réussi parce que j'avais une émission sur le droit des enfants qui avait été à l'époque financée par Plan International.
Génial.
Donc, qui a participé à un concours et
On peut
qui a,
retrouver encore
je pense, je ne
ouais.
sais pas, on a été troisième radio mondiale derrière la Suède, je crois, à l'époque, et le Danemark, un truc comme ça. Et pourtant, cette émission-là a été un grand déclic pour moi. C'est le jour où j'ai arrêté le journalisme parce que je ne me sentais pas bien. Parce que je me rappelle, peut-être parce que c'était un choc, peut-être parce que quand tu es un enfant qu'on n'a pas forcément valorisé, quand tu arrives à ces choses-là, le jour qu'on m'a appelé, c'est mon prof de télé qui m'appelle en me disant ah, félicitations, tu as vu l'apparition ce matin. Je lui dis non, j'étais au salon de coiffure. Il me dit avec ton émission et Troisième Radio Mondiale, on avait participé à un concours. Je me suis sentie mal. J'ai eu l'impression que j'avais le syndrome de l'imposteur, comme
Oui.
si je n'avais pas fait d'efforts et que ça me tombait comme ça. Et c'était fondamentalement injuste parce que je n'avais pas le sentiment d'avoir changé quoi que ce soit dans la vie de ces personnes-là. Et j'ai remis en perspective cette partie de ma vie-là où je me suis dit, mais tu triches.
Ouais, en fait, tu comme si tu étais à ce moment-là, en tout cas, tu te sens pas légitime,
Je ne me sens pas légitime.
et pourtant, c'est toi. C'est toi, c'est ta combativité, c'est ton envie aussi de prendre la place. Mais en tout cas, quand ça te tombe dessus, tu n'arrives pas à l'accueillir finalement,
J'ai
un peu.
pas eu le sentiment. Moi, aujourd'hui, avec le recul, je le prends de deux manières. D'une part, peut-être parce que j'avais pas le sentiment d'avoir investi pleinement la chose. C'est comme si l'enfant qui concrétisait aussi un rêve et qui se dit, bah, écoute, c'est bon. Mais aussi, c'est un aspect de ma personnalité où j'ai besoin de me challenger. Ce moment-là, c'était peut-être un moment spécifique de ma vie où c'était pas forcément très simple. Et quand ça t'arrive comme ça et que t'as pas le sentiment de t'être investi pleinement, ben, on a plus de mal à accueillir les choses. Voilà.
Donc, à ce moment-là, tu te dis, bon, allez, il est temps de passer à ma troisième vie. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis, je veux plus être journaliste?
Alors, quand je ne l'ai pas dit de cette manière-là. J'étais dans une phase vraiment dépressive parce que si vous voulez, un an avant ça, alors je me suis mariée une première fois et je me suis
Vers quel
mariée pour.
âge?
J'avais 24 ans à peu près, 23-24 ans.
Va
Et
pas trop
donc,
vite alors. Du coup,
voilà.
on va mettre les pieds dans le plat.
Voilà.
Donc là, tu as 24 ans,
Ouais.
tu le rencontres.
Alors, je le rencontre à travers le journalisme parce qu'il
OK.
était journaliste à tout hasard. Hein. À l'époque, je faisais mon mémoire sur les prostituées.
OK.
Et donc, j'ai été interviewée une sociologue dont le mari était ami avec ce mari-là. Et bah écoutez, on sort de l'adolescence, on doute sur sa féminité, sur sa condition de femme, et puis on pense que le mariage est un échappatoire. C'est faux, ça ne l'est pas. Et tout est allé vite, ça s'est emballé. Je suis venue à Paris, on s'est mariés, ça a duré 6 mois. Bah,
OK.
j'ai fait un
Donc
mariage de star.
tu le rencontres à travers cette interview. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous projetez, vous sortez ensemble, vous comment tu dis tout a été très vite, mais tu vas nous raconter en prenant
Ouais.
tout ton temps.
Je vais tout vous dire.
Tu vas tout nous dire aujourd'hui. Tu le vois. Est-ce que c'est le coup de foudre? Est-ce que ou est-ce que c'est lui qui vient vers toi? Comment ça se passe?
Alors, c'est tout un contexte, en fait. Au départ, je lui montrais les associations que j'avais faites par rapport à mon enquête de terrain, les machins, tout ça. Et je me rappelle bien, c'était au mois de janvier. Donc, au mois de janvier, sans plus, hein. Après, il part, bien entendu, on s'envoie des mails. Et le mois de février, je suis en mission à Lyon. Donc, de
OK.
Lyon, on part à Paris. Il est journaliste, comme je l'étais, hein. Donc, se rencontrer, c'est facile. Et je reste une semaine à Paris. Il me montre où je fais des interviews parallèles, je fais des dossiers, comme on l'appelait à l'époque, des choses comme ça, pour en tout cas rendre utile mon voyage. À l'époque, je le vivais comme ça, mais c'est une époque où j'étais quand même assez malheureuse. Hein. Cet été, mes enfants m'ont remontré des photos de l'époque. Elles me disaient, mais on avait l'impression que tu faisais la gueule. Oui, je faisais la gueule. La vie ne m'intéressait
Ouais,
pas plus que cela.
tu survivais un peu,
Je ne comprenais pas le
tu
sens de
comprenais.
la vie. Ça n'avait pas de sens pour moi, en fait. Je ne savais pas comment on vit légèrement, comment on se projette dans une vie où rien n'a été dessiné dès le départ, en fait. Il faut y aller.
Vous arrivez à Lyon et vous décidez de vous marier.
Ah non, j'arrive à Lyon. Bah après, je pense que lui, il était peut-être amoureux. Je ne sais pas. En tout cas, il ne l'a pas déclaré en tant que tel. Mais je pense qu'on a dû flirter quand même un tout petit peu. Il ne s'est rien passé à Paris. Et puis, je rentre au mois de février. 2 semaines plus tard, il arrive pour se marier. Et je me suis dit, bah, tiens, Ça peut être une belle opportunité. Je suis triste pour lui de le dire comme ça, hop, papa, maman, c'est terminé. Je vais à Paris, je vais finir mes études. Sauf que je ne suis pas du genre à faire les choses comme ça. Sur le coup, ça s'est passé comme ça.
Oui, parce
Et...
qu'à ce moment-là, c'est une porte
C'est
vers
une porte
l'extérieur.
de... ouais, c'est une porte vers l'extérieur. Et puis arrive ce mariage-là. Lui, il partait aux États-Unis. Moi, je restais à Dakar pour finir mon année universitaire. Et puis, hop, Paulette a fait une belle connerie. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait une maison d'édition, les Corée Éditions, qui faisait une semaine pour célébrer Aimé Césaire. Donc j'ai été invitée, je quitte Dakar pour y aller. Lui, il quitte les États-Unis pour y arriver. Donc c'est la première fois qu'on consommait le mariage. Et puis je suis sortie du Mali en me disant, non, c'est pas le choix de ta vie, c'est terminé. Sauf
Donc
que
là, tu
j'étais
le sens
enceinte.
déjà. Tu étais enceinte.
Voilà.
T'as quel âge là?
J'ai 24
T'as 24 ans.
ans. Ouais.
Donc du coup, tu découvres que tu es enceinte. Comment tu découvres cette grossesse?
Je le savais.
Tu le savais?
Je pressentais en partant que ça pouvait arriver. Je suis allée me protéger comme je vous pouvais. Mais la dame ne m'a pas donné ce qu'il fallait.
Tu lui dis quoi là? Tu lui
J'ai dit à
dis,
la dame,
je veux une
là, j'ai un
pilule?
mari que je vais voir la semaine prochaine. Je pense que je vais consommer. Il faut me donner quelque chose. Mais elle m'a pris des sous, mais m'a jamais donné le bon, ce qu'il fallait.
T'as donné un placebo et t'as dit, Madame, c'est ton heure.
Mais moi, je ne sais pas. Dès que je suis enceinte, je peux dire dès les premiers jours, je savais que j'étais enceinte. Alors, il n'était pas question que j'en fasse autre chose. Hein. Je voulais garder cet enfant-là, quoi qu'il arrive. Mais pour moi, très vite, j'ai compris que les deux choses n'avaient absolument rien à voir. Je pouvais assumer
Cet enfant.
cet enfant, mais il n'était pas question que je continue dans un mariage qui, à mon avis, ne m'emmenait pas là où je voulais. Peut-être à tort, hein, parce qu'avec le recul, je n'ai pensé qu'à moi. Mais
Mais c'est
voilà.
important aussi.
Oui, je pense, oui. Là, je n'ai pas de regret. Franchement, je pense que j'ai pris le bon choix. Pourquoi je l'ai pris en ce moment-là, je ne sais pas. Mais pour moi, il n'était pas question de continuer ce mariage-là. Et j'ai fait tout pour. Et je pense que j'ai fait le bon choix.
Tu donc entames cette grossesse. Là, pour au départ, quand tu sais que tu es enceinte, tu ne demandes pas le divorce. Puisque tu dis, il va voyager, il va aller aux États-Unis. Donc toi, tu vas faire cette grossesse toute seule de ton côté.
Alors lui, il vivait à Paris normalement, il
OK.
était en déplacement aux États-Unis. Donc là, du coup, ce qui est paradoxal, on attendait que je termine l'année universitaire en juin pour pouvoir faire la vraie réception
OK.
au mois de septembre. Et donc je dis à mes parents, bah, écoute, ne vous prenez pas la tête, c'est fini le mariage. Ils me disent, ah, tu racontes des histoires. Donc on faisait mon mariage alors que j'avais divorcé.
Ok, d'accord. Donc eux, ils préparaient toute ta cérémonie, mais toi, déjà, dans ta
Là,
tête, tu
ils étaient
savais que
dans
c'était
l'océan, moi
terminé.
c'était terminé. Donc je suis arrivée quand même, j'ai fait mon acte de présence. Je suis arrivée, je me rappelle à l'époque,
Donc
vers 16 ans.
attends, tu te présentes à ton mariage.
Oh, mais c'est les mariages, tu vois,
Ouais,
les
ouais, ouais.
traditionnels,
Sauf que
machin
toi,
et
dans
tout.
ta tête, tu te dis, mais en fait, là, vous êtes en
Ah,
train
moi,
de me
c'était
célébrer,
clair.
mais moi, je suis partie déjà.
Je l'ai dit, mais on ne m'a pas écoutée.
Ok.
Donc là, du coup, j'arrive à 16h, puis je rentre à 19h. Ils ont fait la fête pendant 2 jours. Et je
Sans
viens
toi.
sans moi. Parce que moi, dans ma tête, c'était clair.
Oui, c'était clair.
C'était clair parce que ce n'était pas le choix. Ce n'était pas le bon choix.
Et en plus, tu le verbalises, mais on ne t'écoute pas. Donc,
Ouais.
limite, tu les laisses faire un
De toute façon,
mariage
je ne
qui n'est pas
faisais
le
pas le
tien.
poids. Je ne faisais pas le poids, de toute façon.
Ouais, bah oui,
Je ne
on est
faisais pas le
d'accord.
poids. À un moment aussi, il faut être réaliste, quoi.
C'est sûr, c'est sûr. Donc, ce mariage dure 2 jours.
Alors, le mariage dure 2 jours, en tout cas, les cérémonies. Bon, je suis l'enfant unique de ma mère, donc on considère que je suis l'enfant unique de la famille maternelle. Donc, c'était vraiment la vraie fête. J'ai eu beaucoup de cadeaux que j'ai gardés quand même, rassurez-vous, hein, je ne les ai pas boudés du tout.
Tu les as pas boudés.
Pas du tout. Et moi, pendant ce temps-là, je me disais, bah, écoute, Colette, tu as une chance qui se présente en toi. Soit tu t'investis pleinement. Et c'était vraiment une période où c'était le bazar. Je voulais faire de la coiffure, mais là, ma famille ne voulait pas. Et pourtant, moi, c'était la meilleure façon de transgresser encore une fois de plus. Une fois que j'avais plus rien à prouver, que j'avais fait des études et que ça me réussissait bien,
Tu te
je
dis,
leur
bah,
dis,
si j'ai
ouais,
envie
là,
de
c'est
coiffer,
maintenant.
je coiffe.
Et puis, voilà. Et peut-être aussi que c'est une manière de marquer l'attention, parce que tu te dis, c'est celle à qui on a l'impression qu'il réussit tout. Dans son... Moi, je venais, je leur disais, peut-être je vais faire un trek en Asie, on m'aurait laissé y aller à 14 ans. Donc, vous voyez un peu. Donc, quand on fait les choses aujourd'hui avec le recul, je peux l'imaginer comme ça. On se dit, écoute, je vais transgresser encore une fois plus. Je dis, ah, j'ai envie de tout arrêter. Là, j'ai arrêté le journalisme, je vais faire coiffure. Je prends un local, tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et puis, je me dis, bon, je m'en vais. C'était une décision un peu difficile à prendre, suite à une déception quand même, il faut le dire. Donc, entre-temps, j'avais la chance d'avoir mon appartement.
T'avais déjà accouché?
J'ai accouché, oui, quand j'ai accouché, donc le divorce s'est confirmé. Non.
Donc, parce que, alors, du coup, il y a la cérémonie, etc., qui dure 2 jours. À ce moment-là, tu es enceinte de combien de temps?
J'étais à peu près, à la, on était au 2 ou 3 mois.
2, 3 mois,
Ouais.
d'accord. Donc, tu vas faire cette grossesse chez tes parents?
Alors, une partie de la grossesse chez moi et l'autre partie, la dernière partie chez mes parents avant
Ok,
l'accouchement.
donc ça veut dire après le mariage, tu t'installes dans ton appartement.
Après le mariage, oui, je m'installe dans mon appartement. J'ai mes 2 sœurs qui viennent après moi avec moi. Et puis, je continue là à travailler, à faire ma petite vie.
D'accord, donc juste avant ta décision de te lancer dans la coiffure, il y a quand même la naissance de ton premier enfant là, du coup, entre les deux.
Alors oui, la naissance quand même, c'était, je ne sais pas, l'être humain peut avoir parfois, jusqu'à peut-être un passé très récent, j'y arrivais pas, et il a fallu faire un travail là-dessus, hein, à refaire le parcours de ma vie. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites par impulsion, il y a beaucoup de choses qui se sont faites par survie, et il y a aussi beaucoup de choses qui se sont faites par défi. Par exemple, quand on a son père et qu'on lui dit si tu as réussi, j'ai réussi, je réussirai, et que finalement c'est ça ou rien, quand même c'est un challenge
Ouais, qui
qui
est
est très
énorme.
fort, qui est énorme. Et pendant longtemps, on ne fait pas ses propres choix, on fait des choix contre quelque chose.
C'est important que tu le dises parce que du coup, on comprend de toute façon déjà par rapport à ton parcours de vie, par rapport à tout ce que tu nous as dit, que ça a été tumultueux. Ça veut dire qu'il y a eu, bah, tu l'as dit, tu l'as très bien dit, des choses qui sont tombées, enfin qui te sont tombées dessus. Il y a eu une dépression, il y a eu des prises de décision. Donc en fait, tout s'active et c'est pour ça que moi, je te fais juste ralentir pour cette grossesse. Elle arrive, mais en fait, elle arrive au milieu de plein de choses qui se télescopent en fait. Hein. Ce mariage dont tu veux pas qu'il se fait quand même, ce divorce que tu as déjà dans ta tête mais qui se matérialise plus tard, l'arrêt du journalisme, le départ d'une vie de coiffure. Donc on comprend en fait que finalement cette naissance elle vient comme ça là au milieu de tout ça. Mais du coup comment tu vis les choses? Est-ce que tu portes cet enfant tout en faisant ton cheminement et limite sans faire vraiment attention au fait d'être enceinte? Ou est-ce que tu vis cette grossesse quand même?
Alors après, je pense que c'était une période, effectivement, on voit, il y a beaucoup d'errances où les choix ne sont pas clairs dans ma tête. Mais c'est bizarre, je n'ai jamais douté de ce qui peut arriver dans ma vie. J'étais toujours positive. Je savais que quel que soit le choix que je ferais, ça m'amènera au bon port. Alors pendant cette grossesse-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, et je n'ai rien contre les hommes qui sont là,
Les garçons, vous allez prendre cher. Je rigole.
ma seule obsession était de ne pas faire un garçon. C'est-à-dire que tout se focalisait là-dedans. Il ne faut pas que ce soit un garçon. Je ne serais pas capable d'élever un garçon. Et ça a été une fille.
Là, je crois que tu es la 5e ou 6e invitée de Raconte ta parentalité et on entend souvent ça. C'est-à-dire qu'en fonction de notre chemin de vie, notre parcours, du lien qu'on a eu avec notre père, les hommes qu'on a rencontrés, etc., le premier enfant, bah, on a eu au moins 3 témoignages où elle disait bah, non, moi, je ne voulais pas que ça soit une fille parce que le rapport que j'avais avec ma mère, j'avais l'impression de. J'allais pas savoir. Et du coup, tu mets quoi au monde? Une fille ou un garçon?
C'est paradoxal, je mets au monde une fille
Ok.
et pendant longtemps je l'ai habillée comme un garçon et je voulais lui faire des
Ok,
dreadlocks.
on est ok avec ça.
Et encore le paradoxe, hein.
Et du coup, comment tu vas l'appeler? Comment se passe l'accouchement?
Alors, voilà, comme tous les enfants, je pense, qui, à un moment de leur vie, se sont sentis en vulnérabilité, je suis une personne très, très maniaque. C'est-à-dire que tout est planifié et organisé.
Ok.
Donc, très vite, j'ai pris mes dispositions pour être. Je ne faisais pas confiance au système, hein, de base, du fait d'ailleurs que les adultes, peut-être, qui entouraient, n'ont pas su sécuriser. Donc, j'avais mon gynéco qui était à Dakar. J'ai accouché dans une clinique. J'avais préparé, j'avais mis tout. J'avais tout organisé de
Pour que
sorte
ça
à
se
ce que
passe
ça se
bien.
passe bien et ça s'est très bien passé.
Du coup, tu l'appelles comment ta fille?
Alors, au départ, elle s'appelait Aïssata,
Ok.
donc la sœur le prénom de la sœur de son père.
Ok.
Pour moi, Aïssata, quand même. Non, je l'ai appelée Aïcha.
T'as changé au bout de combien de temps?
ça a été pragmatique quand même à la mairie. Non, il n'était pas question de l'appeler
Donc,
Aïssata.
t'as changé et c'est devenu Aïcha.
C'est devenu Aïcha, oui.
Ok.
Au grand, son père ne l'a pas sur le coup trop apprécié, mais je sais qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire le poids non plus.
Ouais, c'était ton choix. Donc, comment se passent les premiers instants de vie, la rencontre, quand on te présente Aïcha, la première fois on te la met dans les bras, qu'est-ce que tu ressens?
Alors, après, je ne sais pas. C'est une émotion que j'ai du mal à décrire. Je savais que j'avais ma grand-mère maternelle, j'avais ma mère, j'avais tout le monde autour de moi. Je regardais cet enfant-là, je prenais la mesure de la responsabilité que ça impliquait. Mais elle était là.
Ok. Aïcha,
Elle était là.
bienvenue, t'es arrivée, t'es
Voilà, c'est
là.
ça. Et je savais que je prendrais mes responsabilités. Après, forcément, c'est un enfant avec qui le cheminement est moins simple. Hein. Par la suite, c'est le premier enfant. Hein. C'est l'enfant des doutes, c'est l'enfant des prises de conscience.
C'est l'enfant de la
Voilà, c'est
responsabilité,
l'enfant
comme
avec de
tu
la
dis.
responsabilité qui était beaucoup aimé aussi, beaucoup entouré. Un enfant que j'ai partagé, une enfant que j'ai partagé avec tout le monde. C'est l'enfant de tout le monde.
C'est l'enfant de tout le monde, éduqué et aimé par tout le monde, ou éduqué par toi, aimé par tout le monde.
Alors, au départ, par moi, parce qu'après, il faut dire que quand elle a eu un an, je suis venue en France, j'ai dû la laisser quand même un moment avec sa grand-mère, donc avec ses tantes et machin. Donc, c'était une année qui n'était pas simple pour moi non plus, même si elle était quand même dans son univers. Hein, mais je pense que c'est compliqué. Hein, je me rappelle, c'est des périodes où j'ai beaucoup pleuré, mais en même temps. Je savais qu'elle était protégée, qu'elle était là où elle devait être et qu'il y avait en tout cas, il y avait des personnes qui pouvaient s'en occuper. Je rentrais quand même pour la voir, enfin, pour moi c'était important. Et quand elle a eu 5 ans, elle est venue nous rejoindre.
Donc, elle passe la première année de sa vie avec toi. Ensuite, toi, tu arrives en France. Et les 4 années suivantes, elle les passe en fait dans la maison familiale avec sa grand-mère.
Elle la passe avec son grand-père, sa grand-mère,
Ouais,
ses tantes, c'est
sa
tout.
famille
Voilà, sa famille.
maternelle.
Alors,
Paternelle.
du coup, paternelle, parce qu'il y
Paternelle.
avait les deux. Ma
OK,
famille à moi,
oui.
en fait, il y avait
Mais elle vit chez
chez mes parents à
à
moi.
toi. D'accord. Quand tu récupères Aïcha, du coup, elle a 5 ans. Comment on prépare l'arrivée d'un enfant de 5 ans en France pour le coup, alors qu'elle a fait les 5 premières années de sa vie au Sénégal, même si tu as fait des allers-retours? Est-ce que tu la prépares à ça? Est-ce qu'on la prépare ou est-ce que juste on prend son billet et elle arrive
Alors,
sans trop savoir ce qui lui arrive?
je pense que là aussi, peut-être qu'avec le recul, j'aurais pu faire les choses différemment. Et alors, c'était un peu mitigé parce qu'elle avait entre-temps eu sa petite sœur qu'elle connaissait, qui allait la voir, qui a aimé sa sœur dès qu'elle l'a vue. Donc, et du coup, moi, j'ai été dans ce besoin aussi, parce qu'il faut le dire, au départ, pour moi, il était clair qu'il fallait faire les choses quelque part comme il faut. Il ne faut pas lui voler son identité. J'avais envie que son père existe dans sa vie. Donc l'amener ici, entre-temps, le papa est rentré en Afrique. Donc là, c'était pour nous rejoindre, nous, dans notre foyer. Et j'y tenais absolument. Donc, quand elle est arrivée, là où, en fait, j'ai minimisé que finalement le lien est passé par d'autres personnes et que finalement, j'incarnais un peu le rôle de sœur. Parce que c'est l'enfant qui m'appelait par mon prénom, comme mes frères et sœurs qui étaient là-bas. Je me rappelle la première fois qu'elle est arrivée, au bout de quelques semaines, elle vient nous voir et puis elle nous dit, quand est-ce que je rentre? J'étais juste venue en vacances, mais là, ça commence à durer. Et je me rappelle ce jour-là, mon mari qui lui dit, mais c'est ici ta famille, hein, tu ne rentres plus. Elle a crié, mais d'une manière,
Un cri de douleur, en
tout
fait.
le monde a
Ah
pleuré,
oui,
hein, en
bah
fait,
oui.
on ne savait plus quoi faire. Et du coup, je me suis dit, moi, je ne vous aime pas, je ne vous ai jamais dit que je voulais habiter avec vous, je voulais juste vous voir, mais là, il faut que je rentre, c'est terminé. Et donc, ça m'avait complètement
Bien
déstabilisée.
sûr.
Il fallait appeler sa grand-mère hein, pour lui dire, écoute, là, c'est compliqué, il faut lui parler et tout. Et je pense que ça l'a prolongée un peu quand même dans une forme de déprime. Une année qui n'était pas simple pour elle, où elle a pris beaucoup de poids, où elle ne savait
Bah, c'est un
plus.
déchirement en
C'est un
fait, comme
déchirement.
tu le dis, les 5 premières années de ta vie, tu les as fait avec tes grands-parents, tous tes cousins, etc. C'est eux qui t'ont élevé, éduqué. Même si toi, tu étais présente et qu'elle sait qu'elle a des parents biologiques, mais du coup, c'est intéressant qu'on aborde ça parce que sur le traumatisme vécu par l'enfant, en fait, qui se sent arraché des siens. Et cette douleur d'une mère qui a son enfant qui lui dit, mais moi, enfin, je t'aime pas, je t'ai pas dit que je voulais vivre ici, je suis venue en vacances. Comment t'anticipes, comment vous faites face à ça? Donc, tu me dis, vous appelez ta grand-mère, sa grand-mère, pardon, pour qu'elle puisse la rassurer, mais elle bascule un peu dans une dépression parce que bah, c'est juste insoutenable ce qui lui arrive à ce moment-là. Mmh. Est-ce que tu l'as fait accompagner? Est-ce qu'elle voit un psychologue? Comment ça se passe avec l'école? Du coup, comment les choses se mettent en place pour qu'elle aille mieux?
Alors après, moi, je pense qu'il y avait de la culpabilité, mais il y avait aussi le fait que je pense... Alors, pour l'école, c'est une enfant à l'époque qui n'investissait pas les choses. Elle était un peu comme si elle laissait les choses vraiment... Et puis, je n'étais pas outillée non plus pour l'accompagner, parce que moi-même, j'étais primo arrivant. Il fallait déjà se construire. Et puis là, on se retrouve d'un seul coup quand même avec les deux enfants et puis la troisième qui était en route. Donc, c'était pas très simple. Mais j'ai toujours pris à cœur d'observer et de comprendre. Donc, du coup... J'ai vu très vite qu'il y avait des choses qu'il fallait faire. L'été d'après, je l'ai ramené au Sénégal avec ses frères et sœurs. Et là, c'était différent.
Avant de s'arrêter sur ta parentalité dans son ensemble, on a loupé un coche. Tu arrives en France dans les 4 premières années de vie d'Aïcha, qu'on vient de balayer assez succinctement, puisqu'il y a bien plus d'étapes. Toi, tu rencontres ton mari, qui est ton mari actuel.
Oui, je l'ai gardé.
Du coup, j'adore. Donc, lui, tu l'as gardé. Lui, c'est bon, il est validé. Comment il s'appelle ?
Souleymane.
Souleymane, t'es validé. Quand t'écouteras ça, sache que toi, elle t'a gardé. Comment tu rencontres Souleymane, du coup ?
Alors, là encore, hein, en tant que... Peut-être qu'il faudra réfléchir avec le recul. Hein. Ouais. Après, je rencontre Souleymane parce que j'ai connu sa sœur. Avant lui. Lui, il était militaire à Grenoble. Et j'arrive très vite, donc forcément, je transfère le lien maternel sur ma belle-mère, avec qui je m'entendais super bien. Et puis, un jour, je vais voir cette dame-là, et puis je vois son fils. Donc, on se dit bonjour, on parle, et puis ça s'arrête là. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'étais obsédée par la coiffure. Hein. Quand je vous dis que je suis arrivée en France, je ne suis pas allée à la fac hein, pour savoir comment ça se passait.
Oui, tu avais gardé ton idée de moi, je vais coiffer.
Je suis partie. Il fallait coiffer parce que mon père m'interdisait de coiffer. Donc, je m'enfermais dans une chambre pour coiffer mes tantes. Et pour moi, en fait, une fois que je lui avais prouvé que je pouvais réussir, donc j'ai fait une émission qui a été troisième mondiale, c'était suffisant. Regarde, allez,
regarde,
ça y est, je l'ai fait.
Je suis capable, hein, mais
j'ai coiffé. Donc là, on a du plus, mais je vais coiffer quand même. Donc, j'arrive au mois d'avril, le 25 avril, le 10 mai, je rentre dans le premier salon de coiffure que je vois. Je leur dis, vous ne cherchez pas quelqu'un, je ne savais juste
c'était,
faire...
C'était où, du coup ?
À Orléans, Afrique, Caraïbes. Okay. Je savais juste faire les nattes, hein, juste au début. Hein. Donc, j'arrive, bah, écoute, elle me dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, c'est quoi Sénégalais? Apparemment, quand tu es Sénégalais, ça te donne une crédibilité dans la coiffure.
Je
ne suis pas toujours très sûre que ça soit vrai.
Non, ce n'est pas vrai, mais...
Bon, après, bah, j'ai pris cette chance-là et je pense que c'était l'expérience. Souvent, je dis que les gens ont l'impression que ma vie est incohérente, mais aujourd'hui, avec le recul,
elle
tout avait du sens.
Bien sûr. Et même cet après-midi, on te découvrira sur ta casquette professionnelle et on se rend compte que c'est
tout
très cohérent.
Tout avait du sens, oui.
Et rien n'arrive par hasard, on a envie de penser. Oui. Du coup, Souleymane, quand tu le vois, tu le trouves beau.
Après,
attention,
ça va peut-être le choquer. Moi, je suis née dans la vulnérabilité. Je ne me fais pas de films, je suis très pragmatique et très rationnelle.
Donc, quand tu le vois
Je pèse le pour et le contre. Il est calme, il est tranquille, il est jeune.
La première fois que tu le vois, là, chez ta belle-mère, tu te dis il est calme, il est pragmatique.
Non, quand je le vois chez ma belle-mère, ça ne passe rien. On s'est croisés après par hasard à la rue des Carmes, là où j'avais trouvé mon emploi.
Okay.
Et c'est là, après, il m'invite au cinéma et tout. Et puis, j'avais l'âge de me marier, j'avais envie de me poser. Et puis, il répondait aux critères.
Ok. Donc là, toi, tu étais vraiment restée d'abord sur le casting, critères, etc.
Ouais.
Et lui
ben,
est-ce que vous en avez parlé? Du coup, lui, quand il te voit, il voit en toi une potentielle petite amie au départ?
Ben après, je pense qu'il n'avait pas besoin de faire des dessins, parce que du moment où il m'invite au cinéma et qu'on commence à sortir, c'est qu'il était très intéressé. Après, c'est clair que je ne l'aurais pas pris pour le prendre parce qu'il était beau ou quoi que ce soit. Moi, j'avais besoin d'avoir quelqu'un
qui incarne tout ce dont j'avais besoin pour cette stabilité.
L'anti-modèle. Celui qui ne soit pas, chiant, qui ait un caractère et qui me laisserait m'exprimer en tant que femme et en tant qu'individu.
Aujourd'hui, tu pourrais dire que Souleymane, il incarne l'anti-modèle patriarcal que tu as connu.
Il incarne l'anti-modèle, mais comme on dit souvent, on reprochera toujours à l'autre les raisons pour lesquelles on l'a choisi.
Ah bah bien sûr. Sinon, c'est pas drôle, les garçons.
Sinon, c'est pas drôle.
Donc, Souleymane, tu dois être un peu chiant.
Non, il est vraiment l'anti-modèle, il est à l'opposé de, voilà, de mon
Ouais,
père,
c'est
c'est
top.
sûr. Ouais.
Franchement, du coup, avec Souleymane, vous vous projetez dans une parentalité. Vous dites, ouais, tiens, on voudrait des enfants. Combien d'enfants on voudrait? Ou est-ce que les choses, elles vous tombent dessus naturellement sans forcément se projeter, sachant que toi, tu as un premier enfant, quoi.
Alors, avec Aïcha, ça a matché tout de suite, hein, parce qu'on la voyait quand même, on allait la voir. J'ai rencontré Suleiman en 2006, je suis arrivée en 2005, vous voyez, ça c'était très rapide. Et Aïcha a été très vite dans sa vie, elle avait 2 ans, on va dire ça, et c'était son enfant, et jusqu'à présent, elle l'est,
D'accord.
malgré qu'Aïcha a une relation quand même avec son père biologique. Alors, bon, de manière globale, en fait, je suis un peu celle qui, tu vois, meneuse, un peu comme quand j'étais toute petite, en fait,
T'es
je suis
restée la petite collée.
la petite collée. Donc, du coup, oui, la deuxième, on l'a voulu, on s'est organisé pour que ça arrive. Et puis, la dernière est arrivée, on ne l'attendait pas, mais elle met beaucoup de soleil dans nos vies. Et comme ça, après, on a des tempéraments très différents. Hein. Je suis beaucoup plus dégourdie, beaucoup plus énergique. Donc, je prends beaucoup, beaucoup de place aussi, il faut le dire.
Et comment
Mais
il vit ça, lui? C'est-à-dire que là, quelque part, quand tu dis, même quand tu t'es présenté, on voit que toi, tu es quelqu'un qui planifie, qui organise. C'est-à-dire, dans l'éducation des enfants, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il prend sa place ou est-ce que c'est toi qui diriges, tu sais ce qu'il faut faire, voilà, tu proposes, il dispose? Ou est-ce que c'est des conversations qui...
alors, pour être honnête, j'aurais voulu qu'il en prenne un peu plus, hein, mais après, on pourra toujours se poser la question, est-ce qu'on laisse suffisamment de place? Peut-être que cette partie-là devra être réfléchie. Après, moi, je suis pour, je le dis toujours, tout est une histoire de ressources. On fait ce qu'on a à faire quand on doit le faire. Moi, ce qui était le plus important pour moi, c'était d'avoir un foyer apaisé, calme, où on ne s'écrit pas dessus, on est capable d'aimer, de s'aimer, et parfois peut-être même de se détester dans l'amour. C'est autorisé,
Ouais, c'est autorisé.
mais j'avais envie de cette stabilité-là, d'avoir des enfants, des filles. J'ai eu des filles, j'ai eu la chance d'avoir
Du coup,
que des
t'as que
filles.
des filles?
Que des filles.
Que des filles.
Ouais, Dieu a exaucé les
C'est
vœux.
au moins celui-ci.
Voilà, et puis je me disais, si ça doit être des filles, donc ce sera des femmes libres, et si ça doit être des femmes libres, il faut que ce soit des enfants qui puissent s'exprimer, exister pour ce qu'elles sont.
Et ça, du coup, t'en fais part à Souleymane dès le départ,
Ah non, non,
par
pas
rapport
encore.
à ton parcours, etc. Cette vision que tu as pour tes filles, est-ce que tu en fais part à Souleymane ou est-ce que tu mets en place des stratégies pour que de toute façon, ça soit une évidence? Qu'elles soient libres, qu'elles puissent s'exprimer, qu'elles puissent découvrir.
Moi, je pense qu'aussi, c'est un père, c'est un papa gâteau.
D'accord.
Il tient aussi, je pense, hein, sur ces valeurs-là. On se retrouve, il aime ses enfants. Il les laisse être ce qu'elles sont, sans pour autant oublier quand même que pour que ça marche, il faut qu'il y ait des règles et voilà, que la famille respecte l'ensemble des règles. Oui.
Est-ce qu'il y a eu des. Du coup, là, aujourd'hui, tu as trois enfants. Elles sont adolescentes aujourd'hui. Comment ça se passe, du coup, à la maison avec les filles? Comment vous posez le cadre? Est-ce
Alors,
que
moi,
tu nous racontes un peu?
la maternité est devenue plus agréable, mais ça ne l'a pas toujours été, hein, il faut être honnête. Il y a eu une partie où, parce que souvent dans sa vie de femme, on fait beaucoup de choix par injonction implicite, j'appelle
T'as
ça.
des exemples? T'as des
Par
exemples?
exemple, on se marie parce qu'on doit se marier, ça, je l'ai fait, refait. On fait des enfants parce qu'on doit les faire. Donc, on n'apprend pas la pleine mesure, en fait. C'est après coup, quand un moment. Il a été pour moi question de réfléchir tout ça. J'avais envie, j'aime pas subir les choses. Je me suis dit, si je dois être une mère, si je dois être un individu à part entière, si je dois être une épouse, j'ai besoin de savoir pourquoi je dois l'être.
Et comment tu fais? Est-ce que tu te fais accompagner du coup?
Alors, du coup, moi, j'ai fait simple, j'ai repris des études de psychologie. Comme ça,
Ok,
au moins, c'est
comme
fait.
ça tu fais ta psychanalyse en même temps.
Comme ça, c'est fait. J'ai dit beaucoup, donc j'ai beaucoup lu et j'ai fait beaucoup d'introspection. Donc, j'écrivais beaucoup. Donc, il était important pour moi de découvrir l'éducation que j'ai reçue. J'avais plus envie d'être en opposition avec qui que ce soit. J'avais envie d'hiérarchiser un peu mes représentations, de faire mes choix et d'être celle que je voulais être. Et tant que j'étais pas celle que je voulais être, j'allais pas être la mère que je voulais être. Parce que pendant longtemps, effectivement, j'ai porté mon histoire de vie, ma situation familiale, et ça m'empêchait vraiment d'être émotionnellement présente pour mes enfants. Et quand j'ai été au bout de cette démarche-là, je me rappelle, j'avais invité mes filles au restaurant et je leur ai dit, tiens,
Elles avaient quel âge?
elles devaient avoir 8, 7, et la dernière qui devait avoir à peu près dans les 4 ans, et je les invite, je leur dis, voilà, aidez-moi à être la mère que vous souhaitez que je sois. Dites-moi tout.
C'est juste beau ça. Qu'est-ce qu'elles te disent?
Ah, c'était dur.
J'imagine parce que déjà c'est pas une question anodine et je pense que peu de personnes ont le courage de poser cette question, même si on voulait la poser. Est-ce qu'on n'a pas peur de la réponse?
Mais après, il faut être prête à écouter ces réponses-là. Franchement, je pense que je n'ai jamais de cesse depuis. Ça a changé ma vie complètement et ça m'a permis de comprendre un peu leurs préoccupations. Il y avait beaucoup de choses qu'on mettait en place. Il y a beaucoup de choses qu'on fait en pensant faire du bien aux enfants. Ce n'est pas forcément le cas. J'étais très pragmatique, très organisée, capable d'offrir tout et n'importe quoi, d'amener à des voyages. Les enfants n'avaient pas besoin de ça. Je me rappelle, la grande, à l'époque, m'a dit, je lui dis, et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Elle me dit, j'ai l'impression que tu ne sais pas quoi faire avec nous. Je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Elle dit, parfois, tu as très peur, parfois, tu es pressée, parfois, je sais pas, tu bouges tout le temps. Parfois, on a juste envie de nous asseoir et d'être avec toi.
Et là, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là?
Alors, je n'ai pas émis de jugement. Il y en a une qui nous dit, oui, tu ne nous fais pas confiance, tu nous as mis des caméras. Il faut toutefois, à chaque fois qu'on t'appelle pour te demander si tu nous vois pour pouvoir être dans notre maison. Donc, je me rends compte que je n'étais pas du tout dans la
T'avais mis des
communication.
caméras?
Effectivement, parce que je travaillais beaucoup et je voulais savoir
Mais il y avait leur père.
ce que je faisais. Non, mais quand le papa n'était pas là non plus, mais
OK.
quand, voilà. Donc, je leur explique et je me suis rendu compte que je ne communiquais pas. Je mettais des choses en place et je les excluais un peu de leur vie. Et c'est là que j'ai commencé à parler beaucoup en leur disant, les caméras, si tu vois, vous êtes à la campagne, nous, on travaille parfois. Si vous devez être là, on a envie de voir si tout se passe bien pour vous et même s'il y a des gens qui rentrent. Et puis j'ai dit à Aïcha, tu as raison, peut-être que tu as l'impression que je ne sais pas quoi faire de vous, que j'ai peur, mais au fond, voilà comment se présente ma vie, voilà comment moi ce que j'ai reçu et voilà ce que je ne voudrais pas qu'il arrive. Mais vous pouvez m'aider à m'améliorer, à être peut-être une meilleure mère. Et donc, à partir de là, on a commencé à discuter de beaucoup de choses.
Et du coup, tu as l'impression qu'elles elles se sont prêtées au jeu. Pourquoi je te pose cette question? Parce que souvent, quand on va poser des questions à nos enfants, nous, on est frileux de ça, enfin, friands de ça. C'est que on va leur demander qu'est-ce qu'on peut faire, etc., pour les impliquer. On sait que les enfants adorent ça. Ce sont des ressources. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup de ressources. Mais est-ce que des fois, ça s'inverse pas. Est-ce que du coup, c'est fait naturellement dans la communication, l'échange et des limites, un cadre? Ou est-ce que les enfants, au bout d'un moment, ils n'arrivent pas dans des injonctions aussi? Maman, tu nous as demandé qu'est-ce que tu pouvais faire pour être une bonne maman. On t'avait dit ça. Bah, là, tu le fais pas.
Après, moi, j'ai toujours cette philosophie-là, il faut être vrai avec les enfants. Moi, je suis vrai avec mes enfants. C'est-à-dire, quand je peux, je fais. Quand je dis les choses, je suis la première à donner l'exemple. Les règles sont tout le monde. Après, il y a toujours ce facteur chance qui, pour moi, est important. On a des caractères plus ou moins similaires. De manière générale, on
Avec tes
s'entend
filles.
bien. Oui. Donc, on arrive aussi à nous retrouver autour d'activités qui nous ressemblent. On fait beaucoup, beaucoup de choses ensemble, que ce soit de la marche ou autre chose. On peut discuter de beaucoup de choses. Elles sont beaucoup investies dans l'association et dans tout le reste. Voilà. Et d'ailleurs, on en rigolait tout à l'heure, elles ont l'impression qu'on doit tout faire ensemble.
Ouais,
Voilà.
d'accord.
Donc, sur cet aspect-là, il n'y a pas de souci. J'arrive à leur dire honnêtement que finalement, j'en sais pas ni plus ni trop, que je suis juste un être humain qui aujourd'hui arbore cette fonction parentale. Avec toute la modestie que ça peut demander, il y a des moments où ça peut être compliqué, on a peur pour ses enfants, elles s'en rendent compte, on en rigole. Mais il y a la confiance, le respect de la limite et il y a la vérité dans la relation. Elles me disent honnêtement les choses et je leur réponds de la manière la plus honnête possible.
Ouais, c'est beau ça. Souleymane, comment il trouve sa place dans tout ça? Parce que du coup, tu poses la question à tes enfants de comment je peux être une bonne mère, mais est-ce que tu en parles avec Souleymane et comment le père prend sa place en fait dans cette éducation?
Après, là où c'est compliqué, parce que là, du coup, on ne peut pas être parent à la place de l'autre. Je pense que lui aussi trouve dans sa paternalité ou dans la, je sais pas comment je vais appeler ça, dans son fonction parentale, une forme de jouissance, dans la mesure où il s'entend bien avec ses enfants, ça c'est palpable. Mais moi, je n'ai jamais essayé d'influencer la manière dont il peut l'être. Moi, ce que je sais, c'est que quand il prend une décision par rapport à ses enfants, je respecte. Maintenant, je ne remets pas en cause ma place, je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, dans ce duo-là, je suis celle qui prend peut-être beaucoup plus de responsabilités sur certaines choses. Ça s'en ressent, mais ça, ce n'est pas, en tout cas pour le moment, l'objet d'un déséquilibre dans les fonctions parentales.
D'accord, donc vous trouvez une harmonie et chacun trouve son équilibre par rapport à ce que vous avez pu mettre en place avec les enfants. Est-ce qu'il y a, du coup, toi, tu es très engagée. On le verra cet après-midi quand on va enregistrer parentalité, mais est-ce qu'il y a des choses là aujourd'hui avec le recul quand tu te racontes qui pour toi sont des temps où tu as dû, enfin, est-ce qu'il y a des moments où tu as dû prendre des décisions fortes en matière d'éducation vis-à-vis de tes enfants? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez dû faire des choix ou asseoir une autorité ou quelque chose que tu souhaiterais partager, quelque
Alors
chose qui a marqué
après,
ta parentalité?
moi je pense en fait, là également, d'ailleurs j'ai réfléchi pendant que vous me parlez, je pense qu'on pense souvent que tout va de soi. Et je pense que l'aspect communicationnel doit être d'abord important avant le mariage. Moi je pense qu'on n'a jamais d'ailleurs, hein, avec le recul, on n'a jamais discuté de comment on envisageait la parentalité, de comment on allait gérer les enfants. Non, on a très vite été dans le vrai, chacun fait par rapport à ce qu'il a. Il y a des choses qui ont marché, d'autres moins bien. Après, là aujourd'hui avec le recul, hein, j'ai le sentiment qu'il faut que je passe pour la méchante, celle qui met trop de règles et qui n'est pas souvent d'accord. Et puis il a le bon rôle, c'est le
Qu'est-ce qui te
papa
fait
de
dire
ses filles.
ça? Tu as des exemples?
Il est moins dur que moi.
Qu'est-ce que tu appelles être dur?
Ça veut dire qu'en fait, voilà, il a limite une relation fraternelle avec ses filles, hein, où c'est capable de rigoler de beaucoup de choses. Moi, je suis dans le sérieux et dans le moins sérieux en même temps, ben forcément.
Toi, en tout cas, tu le ressens comme étant celle qui va porter les décisions les moins agréables.
Voilà.
Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait?
Ah, moi j'assume. Il faut bien qu'à un moment que quelqu'un prenne des décisions. Je suis la mère, je suis capable de d'être l'amie, surtout qu'avec l'âge qu'elles ont, c'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus d'autonomie, c'est des partages qui ne sont pas forcément toujours contraignants. Mais il faut bien que quelqu'un prenne les décisions. Je les prends, c'est tant mieux, c'est comme ça, pourvu qu'elles soient prises. Après, ça n'empêche pas que c'est des relations très, très agréables, c'est sûr. On passe de très bons moments.
Aujourd'hui, quand tu observes la société et que tu regardes tes filles, est-ce qu'il y a des choses qui te font peur pour l'avenir?
Alors moi, je leur dis toujours, moi, je pense que je suis une éternelle optimiste, c'est plus simple, hein, parce que sinon, on s'en sort pas. Moi, je leur dis, soyez capable d'aimer, faites ce que vous avez envie de faire et soyez à votre place et juste. Tout le reste, ne m'inquiète pas, parce que du moment où on est dans une dynamique positive, on rencontrera toujours des personnes positives et on prendra toujours en compte les autres. Et je leur dis, vivre, c'est prendre ses responsabilités. Responsabilité vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de leur communauté, mais vis-à-vis aussi de leur époque. Donc, quelles que soient les décisions qu'elles prendront dans leur vie, ça ne m'inquiétera pas plus que cela. Il ne leur arrivera rien qui n'arrivera pas aux autres. Mais en tout cas, ce qui me fait plaisir de voir quelles sont cette humanité-là qui les pousse à aller vers les autres, à respecter l'humain pour ce qu'il est. Et je pense que voilà, je ne m'inquiète pas.
Souvent, on entend les gens dire tout, enfin, il y a une grande partie des choses qui sont vraiment dues à l'éducation. Qu'est-ce que toi, tu as l'impression, avec Souleymane, d'avoir mis en place pour justement pouvoir faire ce constat-là?
Le respect. C'est des enfants, mais il faut les respecter. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas interdire aux enfants d'être autre chose que ce que nous sommes. Exister, c'est finalement construire des représentations. Et le terreau le plus fertile, c'est la famille. Quand on est né dans une famille où c'est fluide, la communication est là, on se respecte mutuellement. C'est pas parce qu'on incarne l'autorité qu'on doit être forcément dominant, déstabilisant, qu'on doit être forcément dans la violence. Ça se fait pas par la force. Quand on respecte quelqu'un, naturellement, il nous le rend. Donc moi, je pense sincèrement, prendre ses enfants, mais vraiment comme des êtres humains à part entière, capables de comprendre et de réfléchir, écouter leur voix quand c'est nécessaire, corriger sans briser, écouter sans juger, ben finalement, on fait des êtres humains qui soient capables de se mettre et de ressentir à la place des autres et on s'en portera mieux. Mais je pense qu'il y a trop de violence inutile.
Exact. Tu vois, là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui peuvent impacter nos enfants, malgré l'éducation qu'on leur donne, un foyer qu'on essaye de rendre le plus agréable possible. Il y a l'environnement, le contexte extérieur, ce qu'on entend, les médias, les réseaux sociaux. Comment tu fais face à tout ça avec elles?
Alors après, c'est pas ça. Moi, je me dis, je pars du postulat que chacun est libre de jugement dans la mesure du possible. Donc, avec un cerveau d'enfant, on prendra des décisions d'enfant. Donc, on essaie de réguler tant qu'on peut, en tout cas, l'usage des écrans. Sachant qu'après, il y a des activités qui permettent à l'enfant de sortir de ces écrans-là. Donc, on fait beaucoup d'activités annexes. On essaie aussi de discuter. Maintenant, le danger étant partout, moi, ce que je fais et que je trouve qui a marché jusque-là, quand mes enfants ont des amis, je prends le temps de les inviter, soit à la maison, soit chez leur père en resto, pour leur sortir un peu de leur contexte habituel. C'est quoi? L'école ou les anniversaires. Je leur dis, prenez par exemple 5 ou 6 enfants que vous aimez bien, vos amis. Je vous invite, je leur paie un repas et je les vois en contexte. Parfois, je les invite aussi dans mon association avec d'autres enfants pour voir comment ils évoluent. Je donne à ces enfants-là la possibilité d'accéder à moi, donc à la maman de leur copine et ensemble de pouvoir discuter de tout. Voilà.
Et puis c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait le fait de sortir les enfants dans un certain contexte, ça leur permet aussi de se faire leur propre avis et leur propre expérience sur l'amitié et la relation. Parce que en fait à l'école, vous connaissez dans ce contexte-là, tu as l'impression que c'est ton ami, mais est-ce que quand on sort de cet environnement, les valeurs, etc., les choses que en fait on peut pas confronter à l'école. Est-ce que tu as un exemple d'une de tes filles qui aurait pu remettre en question une relation, une amie par rapport au fait de la découvrir différemment?
Alors, oui, c'est arrivé l'année dernière où j'ai ma deuxième fille qui avait une amie qu'elle aimait bien, mais la relation n'était pas forcément très équilibrée. Et donc j'ai invité cet enfant-là à un de mes ateliers et au retour, elle a été très en colère. Elle est partie, mais d'une manière qui m'avait un peu perturbée. Et quand on est arrivé, je voyais que ma fille paniquait un peu et ne comprenait pas. Donc, on arrive à la maison, je lui dis, mais il y a un problème. Que ta copine ne soit pas contente parce qu'il y a eu un problème entre vous, je l'entends, mais je trouvais que sa réaction était humiliante et elle n'a pas à le faire. Moi, je t'interdis catégoriquement de fréquenter cet enfant. Là, si tu ne veux pas, moi, de toute façon, je l'appellerai pour lui dire. Elle me dit non, ne le fais pas, je vais lui en parler. Je trouvais que son comportement, ça c'est la réaction de femme qui voit un peu sa fille maltraitée, qui réagit de manière impulsive. Et donc elle part, elle en parle à sa copine. Donc je lui dis, demande-lui pourquoi elle était en colère. Donc elle est arrivée, elles sont arrivées avec une pizza qu'elles avaient achetée. Et comme moi je travaille avec des enfants, je leur ai dit, vous partagez avec les autres enfants cet enfant-là. Elle n'avait pas l'habitude. Et du coup, elle ne l'a pas bien accepté. Et je lui dis, mais elle aurait pu me redemander, j'allais vous redonner de l'argent pour que vous achetiez une pizza, mais il est hors de question que vous mangez devant les autres sans partager. Et la petite, sa copine, prend son téléphone et m'appelle en me disant qu'elle s'excusait, qu'elle a compris ce que j'ai dit et que sur le coup, elle n'avait pas réfléchi comme ça, qu'elle avait des problèmes pour gérer ses émotions. Je lui ai dit, écoute, c'est déjà courageux de demander pardon. Je te pardonne, vous pouvez continuer à vous fréquenter, mais quand on aime quelqu'un, on le respecte. Et ta réaction a humilié un peu Kumba parce qu'elle t'a amené voir sa mère, les enfants avec qui elle est. Et en ayant cette réaction que tu as eue, tu l'as vraiment mis mal à l'aise. Et ça, ce n'est pas de l'amitié. Donc là, cet enfant-là, je lui dis, si tu as besoin de mon aide, tu peux en parler à tes parents. Moi, je pourrais t'accompagner pour que tu arrives à gérer un peu tes émotions. Elles sont restées copines aujourd'hui. Ça a l'air de se passer bien. Elle tient à cette copine-là, mais sur le coup, voilà. Donc ça, oui.
Donc là, en fait, tu nous as t'as partagé avec nous, tu as témoigné aussi de quelque chose qui est vraiment, qui matérialise en tout cas tout ce que tu as dit sur, il y a la vision, la façon dont on accompagne ses enfants, on les laisse aussi découvrir, s'exprimer, on communique, mais on les confronte aussi. Et je pense que ça, c'est super intéressant d'avoir eu cet échange avec toi. Il était très riche. Tu nous as dit énormément de choses et je t'en remercie. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à cœur de partager avec moi et les auditeurs avant de rendre l'antenne?
Alors moi, je voulais d'abord te remercier. Ça a été rapide et c'est un plaisir d'avoir partagé avec vous. C'est jamais évident de parler de soi, mais moi, très vite, j'avais pris le choix de me raconter. Donc, je l'ai fait d'ailleurs avec une petite nouvelle que j'ai mise en ligne parce que je pense qu'une histoire qui s'assume, c'est une histoire qui se raconte. Parce qu'on n'est pas que des postures, hein. On a des parcours de vie et chaque parcours de vie est riche. Et quel que soit ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans un parcours, on peut toujours les transformer. On peut décider d'être celle qu'on veut être ou celui qu'on veut être, pourvu qu'on prenne la responsabilité de son existence avec tout ce que cela implique comme héritage.
Tout à fait.
Voilà.
Franchement, merci. Merci
pour ça. C'est moi qui te remercie.
On va rendre l'antenne. Moi, je suis très contente de t'avoir reçue. On ne se connaissait pas. C'est une très belle découverte. Nous, on va continuer en antenne parce que je crois qu'on a plein de choses à se dire. Merci à tous les auditeurs. Merci à Mon Paris FM de nous avoir accueillis. Et puis, vous pouvez nous retrouver vendredi à partir de 21h pour écouter l'intervention de Collet et sur toutes les plateformes de téléchargement. Personne ne reste à l'arrêt. Allez, ciao.
Merci.